Le Salon AMIF, le salon de l'Association des maires d'Île-de-France, les 28 et 29 mai 2024 à Paris Expo, Porte de Versailles, sur Radio Imo et Radio Territoria.
Eh bien, bonjour à toutes et à tous et merci d'être avec nous. Il est 9h55, nous sommes en direct au Salon des maires d'Île-de-France, édition 2024, accompagné de celui que vous verrez pendant ces deux jours tout au long de cette programmation, notre journaliste préféré, Jean-Baptiste Venin. Comment ça va, Jean-Baptiste ?
Mais très bien, Sylvain, ravi d'être présent sur cet événement unique.
Alors, on ne pouvait pas démarrer cette session, c'est très symbolique, je suis très attaché au symbole, avec quelqu'un que je connais bien, un homme politique qui a les mains dans le cambouis, comme dirait l'autre, et qui va au contact des populations, un homme politique dont on espère effectivement qu'un jour il pourra bien bien changer les choses. En tout cas, c'est ce qu'il fait à la vice-présidence de la région en charge du logement. Il est président de Grand Paris Aménagement, président d'établissement public d'Île-de-France. Il est maire de Mennecy. Il est aussi vice-président de l'Association des maires d'Île-de-France. Inutile de vous dire qu'il est toujours en activité. C'est Jean-Baptiste, Jean-Philippe Dugoin-Clément. Comment ça va, Jean-Philippe?
En pleine forme.
Je suis ravi de vous voir. Alors, c'est vrai que ça fait 8 ans qu'on se voit à peu près tous les ans, entre 3 et 4 fois pour faire le point et le pouls de l'activité. Il y a une chose, juste pour démarrer cette interview, que j'ai remarqué, c'est que c'est blindé de monde dès le matin. Est-ce que c'est un signe, ça ?
Oui, je ne sais pas. Après, c'est un salon, le salon de la MIF, où il y a toujours beaucoup d'élus, de maires, de partenaires, d'entreprises qui sont présents. C'est un moment de rencontre traditionnel. Et en fait, c'est un salon qui est très apprécié. Parce que, en Île-de-France, il y a traditionnellement le salon des maires nationaux, le salon de l'AMF qui a lieu, mais qui est absolument énorme avec tous les maires des régions de France qui viennent. Et à l'inverse, le salon de la MIF, c'est les 1280 communes franciliennes. C'est quelque chose qui est un peu plus resserré et où les gens se connaissent, les gens se voient et où ça permet pour le coup d'avoir énormément d'échanges, de B2B, de retours d'expérience qui se font presque plus que sur le salon des maires de l'AMF qui, pour moi, vu du côté francilien, est beaucoup plus un salon régional.
Régional. C'est vrai que quand on prend la MIF, l'Association des maires d'Île-de-France, ça s'entend bien puisque c'est un cinquième de la population française, me semble-t-il, c'est pratiquement 16 millions d'habitants sur l'Île-de-France, sur les 8 départements.
Oui, l'Île-de-France, c'est un ovni. C'est 18% de la population nationale, 31% du PIB sur 4% du territoire. C'est 1280 communes sur un peu moins de 36 000. On doit être à 35 800, 35 900 avec les fusions. Donc c'est vraiment
1200 communes, plus de 1200 communes.
Oui, mais ce qui est très peu par rapport au nombre de communes du pays, c'est très peu. Et c'est une population extrêmement importante, un très gros développement économique, des problématiques majeures en termes de transport, en termes de logement, en termes d'attractivité, concentrées sur 4% du territoire. L'Île-de-France, c'est la locomotive économique de ce pays et de l'Europe occidentale.
Alors Jean-Philippe, c'est la 28e édition, on le disait tout à l'heure en préambule, évidemment, de ce rendez-vous. Vous avez compté le nombre de salons auxquels vous avez participé déjà depuis le début, vous ?
Non, écoutez, moi je ne les compte plus, je suis maire depuis 2011, donc je n'ai pas dû en rater beaucoup.
Bon, le thème central cette année, il est en lien avec l'environnement, c'est le changement climatique. Vous allez d'ailleurs participer vous-même à une conférence tout à l'heure, avec notamment le ministre en charge du logement. Justement, au niveau de vos compétences, au niveau du territoire, que peuvent faire concrètement les élus pour agir justement sur l'environnement et notamment sur la prise en considération du changement de climat ?
Concrètement, on peut faire beaucoup de choses. La limite à ce qu'on peut faire, c'est la question financière. Et là où beaucoup de maires, d'élus locaux, de présidents d'agglomération se retrouvent face à des injonctions contradictoires, c'est que d'un côté, on nous dit il faut assurer la transition écologique. C'est la transition écologique, c'est quoi ? C'est lutter contre le changement climatique et s'adapter aux conséquences du changement qui ont lieu et qui existent et auxquels on doit faire face. Donc en fait, c'est ce double challenge. Ce double challenge, ça suppose d'investir massivement dans la rénovation des bâtiments publics, dans la désimperméabilisation, dans le changement des véhicules, des flottes municipales. Il y a énormément de choses à faire. Mais investir, il faut de l'argent. Les collectivités locales sont aujourd'hui dans un état de situation financière extrêmement tendue. Et ce qui est assez terrible, c'est que depuis déjà quelques années, ce n'est pas propre à ce gouvernement, mais depuis quelques années, on nous dit qu'il faut faire plus, il faut dépenser plus, mais on ne nous donne pas les moyens de le faire, et même on nous interdit de le faire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, une collectivité, une commune qui a un niveau d'endettement un peu supérieur à la moyenne, le maire est convoqué en préfecture, on lui dit « Monsieur le maire, vous gérez mal votre commune », mais dans le même temps, on vous dit « Il faut investir pour la transition écologique ». Et donc, on est sur une injonction totalement contradictoire, où on explique qu'il y a des priorités, le logement en est une autre, mais le logement d'ailleurs est un vecteur, outre le côté social, sociétal, mais est un vecteur de la transition écologique. Mais on nous dit d'un côté, il faut investir davantage, mais de l'autre, on vous interdit d'investir. Et on ne vous donne pas les moyens de le faire. Si on voulait mettre en concordance un discours politique avec les moyens de cette volonté politique, ben on autoriserait des emprunts spécifiques, on autoriserait de décritériser par rapport aux grilles d'endettement ce qui peut être fait concernant la transition écologique, où on abonderait de manière spécifique certains types de travaux. Et alors, effectivement, on fait des fonds verts aujourd'hui. Des fonds verts, c'est quoi? C'est des lignes de subvention de l'État. Il y en a toujours eu, il y en aura toujours. On les flèche un petit peu plus. Mais on n'est pas à l'échelle du problème.
Ah, je suis bien. Alors, si je peux me permettre, Jean-Baptiste, la situation ne s'est pas améliorée, Jean-Philippe. Rappelez-vous. L'avantage de rencontrer des élus sur la durée, surtout quand on est journaliste, ça a quand même un avantage, c'est qu'on voit les étudiants, on voit que les compensations sur le fait qu'on vous ait ôté un grand levier fiscal, qu'on voit que la chute dramatique des ventes, de la construction des ventes dans l'ancien, ont affecté durablement les droits de mutation à titre onéreux au niveau régional, que tout ça a une incidence sur vos marges de manœuvre, et vous avez raison, vous l'avez pointé. Ça fait, grosso modo, 6 ou 7 ans que l'on parle, vous et moi, des difficultés qu'ont les maires dont on ne cesse de renier les marges de manœuvre. Alors, quel est l'avenir à court terme? Est-ce que c'est l'alternance politique? Est-ce que de toute façon, vous, Jean-Philippe Dubois-Clément, vous vous dites de toute façon, il n'y a pas d'espoir? Emmanuel Macron a été réélu. Et il a une majorité, on va dire, relative. Est-ce que l'enjeu, c'est 2027?
L'enjeu, de toute façon, est 2027. L'une des questions dans ce pays est de savoir si...
Ça vous faites pas d'illusions, là.
L'un des enjeux dans ce pays est de savoir si, en 2027, la France verra, pour la première fois, un gouvernement d'extrême droite élu démocratiquement. Mmh. C'est l'enjeu de 2027, avec aujourd'hui une favorite qui s'appelle Marine Le Pen, si on se dit les choses. Concernant la question financière des collectivités, ça a démarré il y a déjà quelques années de ça. Quand François Baroin était ministre du budget, ça a été le gel des dotations. Donc ça remonte maintenant à une quinzaine d'années. Ça a été la première encoche. Et depuis 15 ans, l'État central, tout gouvernement confondu, et d'une certaine manière, ce n'est pas une question d'alternance politique, c'est une question d'administration centrale. L'État central a pris le parti de faire ses économies, de faire ses marges de manœuvre sur les collectivités locales. Pas uniquement, mais les collectivités locales ont été un réservoir financier pour l'État central. Et c'est quelque chose qui a été démarré sous la présidence de Nicolas Sarkozy, qui s'est poursuivi, amplifié sous la présidence de Hollande, qui s'est renforcé sous le premier quinquennat d'Emmanuel Macron. C'est moins vrai sur ce quinquennat-là, mais le premier quinquennat a été extrêmement difficile. Et moi, je ne crois pas aujourd'hui, alors même que l'État est dans une situation financière d'endettement extrêmement fort, au fait qu'on puisse avoir un relâchement qui soit fait. Il faudrait pouvoir le faire. Il faudrait pouvoir le faire de manière ciblée sur un certain nombre de politiques publiques. Transition environnementale, logement. Pour moi, c'est deux sujets sur lesquels on devrait lever les freins. On ne pourra pas le faire dans tous les domaines. Mais l'état financier de l'État ne permettra pas, à mon avis, de le faire. Et l'autre chose également, mais qui est très compliquée, parce que ça ne parle pas aux Français, je pense qu'on devrait aller vers une réforme institutionnelle forte dans ce pays. Aller vers une réforme institutionnelle quand un gouvernement, comme c'est le cas à l'heure actuelle, n'a pas de majorité, c'est quelque chose qui est totalement impossible. Et donc on ne peut pas envisager un geste fort de réforme institutionnelle avant 2027. Alors on verra le rapport d'Éric Woerth, qui commandé par le président, qui va être remis, qui va être communiqué, quelles seront les préconisations, lesquelles seront suivies, mais surtout qu'est-ce qui pourra être adopté. Vous savez, quand vous n'avez pas de majorité politique, c'est extrêmement dur dans ce pays qui a une culture non pas du débat, du consensus et du compromis politique, mais de la décision majoritaire d'arriver à sortir quelque chose.
Bah, si on en revient justement, encore une fois, sur la conférence qui s'appelle pour une mobilisation générale en faveur du logement, s'il faut attendre 2027, si on doit faire preuve de manque d'optimisme, voilà, par rapport aux décisions qui doivent être prises, par rapport à l'argent qui doit être investi sur ces questions-là. C'est quoi, quelque part, l'intérêt d'aller débattre cet après-midi avec le ministre ?
On va débattre avec lui pour voir ce qu'il propose, pour faire un certain nombre de propositions et le confronter aux choses.
Vous avez vu qu'il a déroulé sa feuille de route au Sénat, là. Hein.
Oui, mais...
On sait, hein, il y a 4 mesures phares qui vont être présentées. Hein. On est dubitatif, hein, je vous le dis. Hein.
C'est le projet de loi qui est posé et qui va être examiné au Sénat au mois de juin. Pour moi, c'est l'équivalent de la 3DS pour le logement. La 3DS étant le projet de loi institutionnel. Quand on prend ce qu'il y a dedans, il n'y a rien de profondément négatif de mon point de vue. Mais il n'y a rien qui va renverser la table. On est sur un projet de loi qui est plus technique que politique, avec un ou deux marqueurs libéraux qui sont des bouts de feu pour la gauche. Mais sur le fond, on est sur des ajustements. On simplifie quelques points. L'exemple, réduire de 2 mois à 1 mois les délais de recours, qu'ils soient contentieux ou gracieux, ça va un peu réduire le nombre de contentieux, mais ce n'est pas ce qui relancera la construction dans ce pays, c'est pas ce qui permettra à des gens qui n'ont pas les moyens de se loger, de pouvoir se loger. Donc on est un petit peu à côté. On a un certain nombre de mesures qui sont assez dans l'effet d'annonce, sauf à ce que la discussion parlementaire permette de les enrichir. Et moi, ce que j'attends beaucoup, c'est de savoir si on a un ministre qui est ouvert à entendre ce que les sénateurs et les députés proposeront ou pas. L'exemple, c'est de dire on met les maires au centre des attributions. La réalité, c'est que l'État ne leur donne la main que sur les premières attributions et pas sur les autres. Leur dit, vous présidez la commission attribution de logement, mais quand on vous propose 3 dossiers, vous avez 1 droit de veto, pas 3. C'est-à-dire que si 3 dossiers sont proposés pour un logement dans une commune par l'État, puisque c'est l'État le principal pourvoyeur de dossiers de logement dans le cadre du logement social. Si 3 dossiers correspondent à 3 cas totalement inadaptés, le maire pourra bloquer un, mais il aura quand même un des 2 autres. Donc on voit qu'on est quand même assez loin du compte. La réforme de la gestion en flux, c'est très technique, mais qui revient pour l'État à spolier les communes de leurs droits d'attribution, n'est pas remise en cause.
Oui,
absolument pas. Donc on a un certain nombre de points dans ce projet de loi. On va simplifier les préemptions, très bien. On va simplifier le travail des établissements publics fonciers. C'est des bonnes choses, mais je pense qu'on ne va pas assez loin. Et en fait, on reste sur un projet de loi qui est plus technique que politique au sens structurant, vision des choses. Mais on a un ministre qui est bon en termes de communication et qui, sur quelques axes, met des marqueurs en avant.
Alors justement, les axes mis en avant, c'est un constat finalement qui ne s'améliore pas, puisque on a fait le point de la construction neuve. Sur le deuxième trimestre 2024, c'est dramatique.
Mais il y a un effondrement total.
On veut la mort d'une filière. Alors, Olivier Salleron, vous le connaissez, hein, c'est le président de la FEB, il a annoncé 300 000 destructions d'emplois.
Mais depuis 2020, chaque année, on assiste à un effondrement dont on pense qu'on a atteint le seuil bas, le plafond bas, et on s'aperçoit que ça continue à descendre. Et depuis 2020, on n'a aucune prise en compte réelle ou majeure avec des solutions. On peut être d'accord ou pas sur les solutions. Après, peu importe. Mais ça, c'est le choix politique, c'est prendre un engagement. Et en fait, on s'aperçoit que ça ne bouge pas. Enfin, on a eu un CNR logement pendant 1 an avec des propositions globalement partagées par des personnes aussi différentes que Nexity, la Fondation Abbé Pierre. Strictement rien derrière. Et on voit qu'on s'enfonce petit à petit et qu'il n'y a pas de mesure de relance forte. On est sur aujourd'hui dire c'est l'offre, c'est l'offre, c'est l'offre. Il n'y a pas que l'offre. Il y a une crise de l'offre, mais il y a une crise de la demande, il y a une crise de l'acceptabilité, il y a une crise du coût financier, il y a une crise de la règle de construction. Et en fait, on est encore beaucoup trop parcellaire. Je crains, mon sentiment, c'est que le projet de loi qui soit passé, et encore une fois, dans lequel, pour moi, il n'y a pas d'effet négatif. Mais parce qu'il ne va pas assez loin, parce qu'il ne bouge pas les lignes, parce qu'il ne renverse pas la table, ne change strictement rien. Et moi, ma très grande peur, c'est à la façon dont on ne réagit pas, dont on procrastine sur le sujet du logement, c'est qu'on ne puisse pas avoir de reprise sur le neuf. L'ancien, c'est un peu différent parce que les taux peuvent un peu diminuer. Le pouvoir d'achat des ménages peut-être un peu s'améliorer. Mais c'est que sur le neuf, on ne soit pas en état d'avoir une reprise forte avant la présidentielle. 3 ans, c'est très long pour les acteurs du secteur.
Clairement, clairement. Jean-Philippe, avant de se quitter, avant de mettre un point final à cette première interview et en vous remerciant bien évidemment d'être passé nous voir, on rappelle que c'est le salon de l'association de l'AMIF, donc des maires d'Île-de-France. Vous êtes vous-même maire de Mennecy en Essonne. C'est une commune, je crois, de 16 000 15 000 habitants à peu près. Justement, le sujet central, c'est le changement climatique. Est-ce qu'on peut citer comme ça quelques exemples qu'on pourrait mettre en avant au niveau de la ville de Mennecy, que vous avez mis en place pour justement prendre en considération le changement climat ?
Beaucoup de choses, des rénovations très lourdes sur des bâtiments publics. Les deux bâtiments les plus énergivores ont été rénovés l'un l'année dernière avec une crèche, presque 1 million d'euros de travaux, une mairie annexe, presque 1 million d'euros de travaux qui démarre cet été. C'est la plantation de vergers, c'est la désimperméabilisation d'espace avec tout un travail sur des cours d'école. On n'invente rien, les cours oasis, c'est le principe de cours oasis, c'est des choses qui se font. C'est la création de jardins partagés pour aussi essayer de favoriser des filières courte, c'est tout un travail de sensibilisation par rapport aux enfants dans les écoles. Vous voyez, par exemple, les enfants, on va donner tous les ans aux enfants des gourdes réutilisables. C'est aussi un moyen de lutter contre la production de plastique et donc l'utilisation d'hydrocarbures et puis le recyclage qu'on doit avoir. Voilà, c'est tout ce travail-là. C'est le recyclage des déchets des cantines déjà depuis des années avant que ce soit obligatoire. Le fait qu'on ait zéro phyto, là même de la loi Labbé, c'est-à-dire qu'on n'utilise même plus de phyto dans les cimetières ou les stades, là où c'est encore utilisé. Voilà, c'est plein de choses comme ça.
Beaucoup de Merci beaucoup. C'est toujours agréable d'échanger avec vous. Il y a un point que je voulais partager, mais on fera une autre interview sur le plan géopolitique et comment vous préparez vous-même, d'ailleurs, aux affaires dans les années qui viennent. Ça, c'est une question qui nous taraude aussi, puisque je rappelle que vous faites partie d'un parti politique aussi et vous militez, bien sûr, pour un changement. Espérons que ce changement ne soit pas trop brutal. En tout cas, une chose est sûre, c'est qu'il faut qu'on répare aujourd'hui la politique du logement. Ça me fait un peu rire quand j'entends le président de la République quand même qui dit qu'il faut réarmer la natalité, qu'il faut réarmer un certain nombre de choses. Commencez donc par loger ceux qui sont déjà là. On verra ensuite. Merci Jean-Philippe Dumont-Clément.
Merci beaucoup d'être venu sur notre plateau et nous sommes en direct pour vous faire vivre cette 28e édition du Salon de la MIF. Merci beaucoup.
Le Salon à MIF, le salon de l'Association des maires d'Île-de-France, les 28 et 29 mai 2024 à Paris Expo, Porte de Versailles, sur Radio Imo et Radio Territoria.